Les gens, c'est comme les mots. Il y a ceux que j'aime et ceux que j'aime pas. Quand j'aime pas, je supprime. Les mots, les gens, je supprime. Mais supprimer, justement, c'est un mot que j'aime pas.
Supprime-le.
Est-ce que tu peux être con? T'es même pas con, t'es bête. Tu sais rien, tu vas jamais au cinoche, tu te tiens au courant de rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents. Dans le fond, être tout idiot, t'es peut-être dans le vrai. Le savoir, quand on commence à mettre le nez dedans, c'est pire que la canne.
La ligne claire. XXIe numéro de ce magazine sonore qui, je l'espère, saura vous surprendre, vous séduire et vous captiver. Le liseur de 6h27, c'est ce livre étrange qui vous accompagne dans votre train de banlieue du lundi au vendredi et pour que la semaine soit moins contraignante par les mots M-O-T-S des autres, vous fait voyager dans d'autres sphères du quotidien, histoire d'égayer le vôtre. On sera nombreux à prendre ce train. J'aperçois Catherine, Morisset, Jane Birkin, Mathématiques modernes, Kraftwerk, Ekman, Ekofeld, Jess Garon, Luna Barker et bien d'autres. On prendra donc des lignes de chemin de fer, celles d'Europe. Pour se remémorer le sombre passé, on aura une pensée pour les poissons immobilisés au fond des aquariums. Et enfin, il y aura un clin d'œil au magazine Nous Deux, guimauve parfaite pour adoucir la dure limite, le vide de chaque jour. Vous êtes prêts? Je suis prêt aussi. Et maintenant, commençons.
Et maintenant, commençons.
La région Hauts-de-France et l'équipe TER vous souhaitent la bienvenue à bord de ce TER à destination de Compiègne. Il desservira Orlais-Villecroix, Champigny-Bouvieux, Creil, Rieux-Anjoucourt, Pont-Saint-Martin, Longueuil-Sainte-Marie.
Je rêve toujours d'un ombre plus chaleureux, plus rondouillard, plus agréable à l'œil. Un ombre avec en son sein quelques zéros bien ventrus, voire des 8, des 6 ou des 9 pensus à souhait. Un beau 3, généreux comme une poitrine de nourrice, suffirait amplement à mon bonheur. 14 717, c'est tout en eau. Un nombre pareil. Ça vous expose à sa maigreur sans détour, vous agresse la rétine de l'aigu de ses ongles. Quoi que vous fassiez, une fois posé sur le papier, ça reste toujours une suite de droites facturées.
Thank you.
Le téléphone portable programmé pour le réveiller à 5h30 vibrait de toute sa coque sur la table de nuit. Sous la surface, ondoyante de l'eau, Roger de Lille, le poisson, le regardait de ses yeux globuleux. Lundi, il n'avait pas vu passer le dimanche. Levé trop tard, couché trop tôt. Un jour sans. Sans envie, sans faim, sans soif, sans même un souvenir. Rouget et lui avaient occupé leur journée à tourner en rond. Le poisson dans son bocal, lui dans son studio. Déjà dans l'attente de ce lundi qu'il détestait. Il saupoudra d'une pincée d'aliments dans l'aquarium et se fit violence pour avaler la poignée de céréales déversée dans son bol. Il se lava les dents entre deux gorgées de thé, sauta dans ses habits et attrapa la serviette de cuir avant de dévaler les trois étages de son immeuble. Le froid qui régnait dehors finit par le réveiller complètement. Ce dédain. Il reste une petite chance que je vous ouvre enfin. Lorsqu'on est aux abois, pas mieux qu'un mastodonte. Cacher son émoi et étouffer sa honte. Si vous voulez faire taire le langage des muses, abandonnez ces terres et livrez vos excuses. Je m'en vais dans l'instant, lever cette barrière, laisser tout doucement retomber ma colère. Force ni l'envie, pas plus qu'il ne s'asseyait sur le strapontin orangé. Après avoir couché les peaux vives sur leur buvard et rangé le tout dans sa sacoche, il fermait les yeux et laissait la vie revenir doucement en lui tandis que le wagon berçait son corps fatigué. 20 minutes apaisées avec d'un côté cette vie qui refaisait surface, tandis que l'autre, le ballast qui défilait sous la trame, aspirait à lui les humeurs sales du jour. Même d'ôter sa veste, Guilin allait saupoudrer une pincée de nourriture à Rouget de Lille, le poisson rouge qui partageait son existence et dont le bocal trônait sur la table de chevet. Désolé si je suis un peu en retard, mais le 18h48 ce soir aurait dû s'appeler le 19h02. Je suis lessivé. Tu ne connais pas ton bonheur, mon vieux. Je paierai cher pour prendre ta place, tu sais. Il se surprenait de plus en plus souvent à parler ainsi à son poisson. Guilin se plaisait à croire que le carassin l'écoutait, là, suspendu au centre de la sphère, toute ouïe ouverte sur le récit de sa journée. Avoir pour confident un poisson rouge impliquait de ne rien attendre d'autre de lui. Que cette écoute passive et silencieuse, même s'il croyait parfois déceler dans le filet de bulles qui sortait de sa gueule un début de réponse à son questionnement.
Je me retrouvais à ces instants auprès d'elle, comme si, endormant, elle était devenue une plante. Par là, son sommeil réalisait, dans une certaine mesure, la possibilité de l'amour. Seule, je pouvais penser à elle, mais elle me manquait, je ne la possédais pas. Présente, je lui parlais, mais était trop absent de moi-même pour pouvoir penser. Quand elle dormait, je n'avais plus à parler. Je savais que je n'étais plus regardée par elle. Je n'avais plus besoin de vivre à la surface de moi-même. En fermant les yeux, en perdant la conscience, Albertine avait dépouillé, l'un après l'autre, ces différents caractères d'humanité qui m'avaient déçue depuis le jour où j'avais fait sa connaissance. Elle n'était plus animée que de la vie inconsciente des végétaux, des arbres, vie plus différente de la mienne, plus étrange, et qui cependant m'appartenait davantage. Son moi ne s'échappait pas à tout moment, comme quand nous causions,
fait
par les issues de la pensée inavouée et du regard.
Ta longue et lourde tâche.
Elle avait rappelé à soi tout
dans
ce
la
qui
voix où le sort a voulu t'appeler. Puis après,
cause,
comme
résumé,
moi, souffre et meurt sans parler.
En le tenant sous mon regard, dans mes mains, j'avais cette impression de la posséder tout entière, que je n'avais pas quand elle était réveillée. Sa vie m'était soumise, exhalait vers moi son léger souffle. J'écoutais cette murmurante émanation mystérieuse, douce comme un zéphyr marin, féerique comme un clair de lune qu'était son sommeil. Tant qu'il persistait, je pouvais rêver sur elle, et pourtant la regarder et, quand ce sommeil devenait plus profond, la toucher, l'embrasser. Ce que j'éprouvais alors, c'était un amour aussi pur, aussi immatériel, aussi mystérieux que si j'avais été devant ces créatures inanimées que sont les beautés de la nature. Et en effet, dès qu'elle dormait un peu profondément, elle cessait d'être seulement la plante qu'elle avait été. Son sommeil, au bord duquel je rêvais avec une fraîche volupté dont je ne me fusse jamais lassée et que j'eusse pu goûter en infiniment, et c'était pour moi tout un paysage. Son sommeil mettait à mes côtés quelque chose d'aussi calme, d'aussi sensuellement délicieux que ces nuits de pleine lune dans la baie de Balbec, devenue douce comme un lac. Les branches bougent à peine. Étendues sur le sable, on écouterait sans fin se briser le reflux. En entrant dans la chambre, j'étais restée debout sur le seuil, n'osant pas faire de bruit. Et je n'en entendais pas d'autre que celui de son haleine venant expirer sur ses lèvres, à intervalles intermittents et réguliers. Comme un reflux, mais plus assoupi et plus doux. Et au moment où mon oreille recueillait ce bruit divin, il me semblait que c'était, condensé en lui, toute la personne, toute la vie de la charmante Castille, étendue là sous mes yeux.
À l'intersection des trois allées principales, la grande fontaine m'offre son glouglou rassurant. Quelques pièces de monnaie luisent dans le fond du bassin. Des pièces jetées là par quelques couples d'amoureux ou des joueurs de loto superstitieux. Il m'arrive parfois, moi aussi, d'en balancer une en passant, lorsque l'envie m'en prend. Comme ça, pour le seul plaisir de les voir scintiller, tandis qu'elles s'enfoncent sur la surface, en tournoyant sur elles-mêmes. Peut-être aussi parce qu'il reste en moi encore un peu de cette fille de 8 ans qui attend que son prince charmant daigne enfin venir la libérer. Un vrai prince charmant qui, après avoir garé son beau destrier blanc dans le parking, une Audi A3 ou une DS intérieur cuir par exemple, ferait halte chez moi pour vider sa vessie avant de m'emporter dans ses bras pour une longue aventure amoureuse. Faut que j'arrête de feuilleter nous deux, moi. Ça me tape un peu trop sur les œstrogènes des lectures pareilles. Je cascade la quinzaine de marches qui s'enfoncent sur la surface du centre commercial pour rejoindre mon lieu de travail. À l'aide de mon deuxième sésame, j'actionne le mécanisme qui fait remonter le rideau de fer. Ça fait un bruit terrifiant, comme si, au-dessus de ma tête, une mâchoire géante pilait le métal au fur et à mesure que celui-ci se faisait avaler par le plafond. Il me reste alors une heure avant l'ouverture des portes. C'est mon heure à moi. Cette heure passée devant ma petite table de camping, à relire et recopier les écrits de la veille sur mon ordinateur avant l'arrivée des clients.
Petit train. Un matin devant la gare, enfin je l'ai rencontré. Le beau garçon plein d'espoir et qui me souriait. Oh oh, mon petit train de banlieue est parti ce matin. Il voyait dans mes yeux la joie de vivre enfin ce grand amour que j'attendais depuis toujours sans le trouver. Derrière les carreaux viens voir des dames en chapeau contemplant leur miroir. Et dans le fond, en croquevillé, le vieux monsieur fait toujours ses mots croisés. Moi je l'aime bien, mon vieux petit. Et quand viendra le temps où tous les deux fatigués nous rêverons d'antan en regardant passer le petit train de banlieue que nous ne prendrons pas, car nous serons trop vieux pour arriver là-bas. Mais dans nos cœurs viendra à passer le petit train de l'éternité. Derrière les carreaux on pourra toujours voir des dames en chapeau contemplant leur miroir. Mais dans le fond, qu'est-il arrivé? Plus d'un monsieur ni de mots croisés. Il a pris le train sur l'autre chemin.
Je passe la blouse bleu ciel qui me sert d'uniforme, une mocheté en tergale, tout ce qu'il y a de plus ordinaire et qui me fait ressembler à une guichetière de la poste des années 70.
Dans le train de 19h, qui arrive à 22h, une femme lit le portrait de Dorian Gray. Moi je ne l'ai jamais lu, que dans ses yeux inconnus, elle caresse ses cheveux, toutes les 3 minutes ou 2, je connais bien ses mains, ce sont les mêmes que Madame Frein, ma professeure de latin, dont j'étais amoureux. Dans le train de 19h, il y a 2 lycéens, ils ont les cheveux teints d'une couleur fluorescente, et leur peau est florissante. L'autre dit à l'un, tu sais je peux sucer mon sexe quand je veux, comme tu dois être heureux, répond l'autre lycéen. Dans le train de 19h, il y a un enfant qui pleure, moi ça me fait pleurer, les enfants qui pleurent. Dans le train de 19h, qui arrive à 22h, j'aime bien le contrôleur qui fait des calembours. Avez-vous vos titres de transport? Transport de Brest, transport de Lorient, transport de Toulon, etc. Et tout le monde rit. Dans le train de 19h, c'est comme une petite famille. Le train de 19h, une petite famille. Dans la main du petit garçon, il nous fait tourner en rond. Dans sa chambre, dans sa maison, dans son quartier, dans sa ville, dans sa région, dans son pays, dans son continent, dans son monde, dans son univers. Le train de 19h, dans la main du petit garçon, on est secoué de partout. Dans le train de 19h, on est secoué de partout. On est secoué de partout.
C'est l'heure de Josie et du petit déjeuner. Josie est la horreur qu'on appelle Josiane et shampooineuse au salon qui se trouve au premier. Elle est tout ce que je ne suis pas. Elle fait dans le beau, je travaille dans le laid. Elle est frivole, je suis plutôt du genre sérieux. Elle est exubérante, j'appartiens plutôt à la famille des coincés refoulés. Peut-être est-ce pour ça qu'on s'entend si bien, Josie et moi. C'est toujours un peu de soleil qui entre quand elle arrive ici. On se raconte nos peines et nos joies autour d'un croissant et d'un café. On papote, on parle des clients, comment un tel lui a demandé une teinture vert pomme, comment un autre m'a pété une chasse d'eau parce que ce con n'avait pas compris qu'il fallait faire pousser et pas tirer. On refait le monde, on se raconte nos rêves, on pique des fous rires dignes d'ados pubères avant de nous souhaiter une bonne journée et à demain. Son jour de repos tombe le mardi. Ces jours-là n'ont pas la même saveur. Ces jours-là, il manque quelque chose d'indéfinissable, comme une épice oubliée dans la confection d'un plat. Je n'aime pas les mardis. Roger de Lille, cinquième du nom, était mort pendant son absence. Le petit corps gisait à côté du bol quand Guilin rentra des glycines. Son aquarium de substitution avait dû lui paraître un peu trop exigu pour pouvoir s'y dégourdir les nageoires dignement, et l'animal avait préféré faire le grand saut dans l'inconnu, histoire d'aller voir ailleurs si le monde n'était pas meilleur. Son dernier rêve de liberté sera brisé sur l'inox froid de mon évier, pensa Guilin avec tristesse. Il attrapa délicatement la minuscule dépouille par la queue entre pouce et index avant de la glisser dans un sachet plastique. Demanda à la vendeuse. Cruel dilemme que de devoir choisir entre un chemin de ronde et une monotonie mortelle ou la promenade saccadée d'un circuit tout en coin. Il opta finalement pour le globe de verre habituel. Même pour le plus commun des poissons, il ne devait pas être pire supplice que de venir buter sur des angles droits à longueur de jour et de nuit. De retour au studio, Guilin s'empressa de tapisser le fond du bocal de sable blanc pour y coucher la mini-amphore et y planter les algues synthétiques du précédent locataire. Bientôt, un nouveau rejet de l'île barbotait gaiement au milieu de ce décor féerique. Il émanait de ce poisson minuscule qui ressemblait en tout point à ses frères un sentiment d'immortalité qui plaisait à Guilin. Ça ne dura qu'un bref instant, mais il crut déceler dans le regard du Rouget sixième du nom toute la reconnaissance des cinq qui l'avaient précédé.
You will now listen to my voice. My voice will help you and guide you still deeper into Europa. Every time you hear my voice, with every word and every number, you will enter a still deeper layer, open, relaxed and receptive. I shall now count from 1 to 10. On the count of 10, you will be in Europa. I say 1. And as you focus your attention entirely on my voice, you will slowly begin to relax. 2. Your hands and your fingers are getting warmer and heavier. 3. The warmth is spreading through your arms, to your shoulders and your neck. 4. Your feet and your legs get heavier. 5. The warmth is spreading to the whole of your body. 6. I want you to go deeper. I say 6. And the whole of your relaxed body is slowly beginning to sink. 7. You go deeper and deeper and deeper. 8. On every breath you take, you go deeper. 9. You are floating. On the mental count of 10, you will be in Europa. Be there at 10. I say 10. You are listening to the noise of rain beating against the large metal door. Go closer.
I was a good kid. I wouldn't do you no harm.
La ligne claire.
I was a nice kid. With a nice paper round. Forgive me any pain I may have brought to you. With God's help I know I'll always be near to you. But Jesus hurt me when he deserted me, but I have forgiven Jesus for all the desire he placed in me, when there's nothing I can do with this desire. I was a good kid, through hail and snow I'd go just to moon you. I carry my heart in my hand. Do you understand? Do you understand? But Jesus hurt me when he deserted me, but I'm
vacation. Tuesday, suffocation. Wednesday, condescension. Thursday is pathetic. By Friday, life has killed me. By Friday, life has killed me.
L'autostoppeuse lui avait dit s'appeler Gina. John avait en vain tenté d'accrocher le regard de la jeune femme, cachée derrière les imposantes lunettes de soleil. Pour la énième fois depuis qu'elle était montée à bord, Gina croisa ses jambes, des jambes galbées et qui semblaient interminables. Le crissement soyeux des bas nylons mit John au supplice. Guilin sursauta. La dernière phrase prononcée par Huguette Lignon lui avait congelé la sueur. Il comprit dans l'instant qu'il allait y avoir un petit souci. Depuis qu'il récupérait des peaux vives dans les entrailles de Laser Store, il n'avait jamais pris soin d'en faire une lecture préliminaire, préférant délivrer le texte sans en connaître par avance le contenu. En toutes ces années de pratique, jamais jusqu'à présent, il n'était tombé sur le genre d'extrait qu'était en train de débiter Huguette. Une Huguette aux anges qui s'appliquait du mieux qu'elle pouvait à mettre le ton juste, mais qui ne semblait pas s'être rendu compte pour l'instant de ce vers quoi elle glissait, ni d'ailleurs le reste de l'assemblée pendu à ses lèvres. De regarder la route droit devant lui, la femme lui demanda du feu. Il n'avait pas pour habitude de laisser qui que ce soit fumer dans son bahut, mais il se surprit à tendre son briquet. Elle saisit son poignet des deux mains et approcha la flamme de la Chesterfield coincée entre ses lèvres, deux lèvres pulpeuses rehaussées d'une touche de gloss. Elle plongea le buste vers le cendrier, effleurant de son sein gauche le biceps musclé de John qui frissonna au contact de cette poitrine d'une fermeté délicieuse.
Les grosses de riches des Porsche et des Maserati ne m'inspirent à moi que du dégoût, que du mépris.
Nom de Dieu, c'est bien ce qu'il craignait. Il courait tout droit à la catastrophe s'il n'intervenait pas rapidement. Il lui fallait stopper tout ça avant que John et Gina ne se retrouvent complètement à poil et étendus sur la couchette du camion à se tripatouiller les muqueuses. Et au train où allaient les choses, ça risquait fort d'arriver avant le bas de la deuxième page. Huguette, je crois qu'il serait préférable... Chut ! C'était là un chut unanime, scandé par une assemblée qui ne perdait pas une miette du récit et qui faisait comprendre à Guilin que toute intervention de sa part serait pour l'heure des plus malvenues.
Arrête-toi, beau camionneur. Mais oui, j'entends là-bas comme un klaxon. Est-ce qu'une personne...
Sous l'effet du désir intense, qui montait en lui, le routier se sentit aussitôt un peu trop à l'étroit dans son jean moulant. Cette femme était le diable, un diable désirable qui basculait à chaque expiration la tête en arrière, le temps de recracher dans le plafonnier la fumée de sa cigarette, reins cambrés et la poitrine tendue en avant. Elle ôta ses lunettes, dévoilant deux yeux d'un bleu intense. Accoudée à la portière, elle se retourna vers John, des trois quarts, et entr'ouvrit ses jambes en une pose lascive. Alors, n'y tenant plus, l'homme immobilisa le 38 tonnes sur le bas-côté de la Nationale 66 dans un grand nuage de poussière et se jeta sur la femme qui s'offrit à lui sans résistance aucune. En même temps qu'il arrachait la culotte de dentelle, il goûta à pleine bouche ses lèvres qui s'ouvraient à lui. Gina glissa une main experte dans le pantalon de John à la recherche du sexe turgescent. Un coup de klaxon appuyé ramena tout ce monde à la réalité. Le taxi piaffait de tous ses warnings au milieu de l'allée gravillonnée. Quelques pensionnaires vinrent trouver Guilin pour le remercier chaleureusement de sa visite. Une brave dame, la serviette déjà passée autour du cou pour le repas, demandait à qui voulait l'entendre la signification du mot turgescent. Guilin fila, non sans avoir promis de revenir le samedi suivant. Il ne s'était pas senti aussi vivant depuis longtemps. Menez-nous à bon port. De votre main experte, conduisez ce carrosse. Soyez vif et alerte, évitez trous et bosses. Mais de grâce, avancez. Il en va de votre or.
De la licence en retour. Destination intersidérale. Et pas question de faire demi-tour. Avec moi dans le train spécial, c'est de première urgence, car l'amour seul peut ouvrir le bal et nous accorder une dernière danse. Monte avec moi dans le train spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada.
La rame vint s'immobiliser contre le quai en crissant de tous ses freins. Quilin s'arracha à la ligne blanche et escalada le marchepied. Les trois strapontins à droite de la porte l'attendaient. Il préférait la dureté de la battant orangée au moelleux des banquettes. Avec le temps, le strapontin avait fini par faire partie du rituel. L'acte d'abaisser son assise avait quelque chose de symbolique qui le rassurait. Alors que le wagon s'ébranlait, il tira de la serviette de cuir qui ne le quittait jamais la chemise cartonnée. Il l'entrouvit avec précaution et exhuma d'entre les deux buvards roses bonbons qui s'y trouvaient un premier feuillet. La pelure à demi déchirée et rognée dans son angle supérieur gauche pendouillait entre ses doigts. C'était une page de livre, format 13x20. Le jeune homme l'examina un temps avant de la reposer sur le papier buvard. Peu à peu, le silence se fit dans la rame. Parfois, des chutes réprobateurs retentissaient pour faire taire les quelques conversations qui peinaient à s'éteindre. Alors, comme tous les matins, après un dernier raclement de gorge, Quilin se mit à lire à haute voix. Tandis que le jour naissant venait s'écraser sur les vitres embruées, le texte s'écoulait de sa bouche en un long filet de syllabes, entrecoupé çà et là de silences dans lesquels s'engouffrait le bruit du train en marche. Pour tous les voyageurs présents dans la rame, il était le liseur, ce type étrange qui, tous les jours de la semaine, parcourait à haute et intelligible voix les quelques pages tirées de sa serviette. Il s'agissait de fragments de livres, sans aucun rapport les uns avec les autres. Un extrait de recettes de cuisine pouvant côtoyer la page 48 du dernier Goncourt.
Tic-tac, tic-tac. des économies.
Un extrait de recette de cuisine pouvait côtoyer la page 48 du dernier Goncourt. Un paragraphe de roman policier succédait à une page de livre d'histoire. Peu importait le fond pour Guilin. Seul l'acte de lire revêtait de l'importance à ses yeux. Il débitait les textes avec une même application acharnée. Et à chaque fois, la magie opérait. Les mots, en quittant ses lèvres, emportaient avec eux un peu de cet écœurement qu'il étouffait à l'approche de l'usine.
Train grande vitesse, Paris Avignon, 2h30. Oui, c'est très bon.
Le rayon du matin, je partais.
Le jeune homme éplucha des yeux la douzaine de feuillets exhumés de sa serviette jusqu'à ce que le RER arrive en gare. Tandis que s'évanouissait sur son palais l'empreinte des derniers mots prononcés, il contempla pour la première fois depuis son entrée dans la rame les autres voyageurs. Comme souvent, il découvrit sur les visages de la déception, voire de la tristesse. Ça ne dura que le temps d'un ébrouement. Le wagon se vida rapidement. Il se leva à son tour. Le strapontin émit un claquement sec en se repliant sur lui-même. Clap de fin. Une femme entre deux âges lui glissa un merci discret à l'oreille. Guilin lui sourit. Comment leur expliquer qu'il ne faisait pas ça pour eux ? Et il quitta avec résignation la tiédeur du wagon, abandonnant derrière lui les pages du jour. Il aimait les savoir là, douillettement glissés entre l'assise et le dossier du strapontin, loin du fracas destructeur auquel elles avaient échappé. Dehors, la pluie avait redoublé de violence. Comme à chaque fois, à l'approche de l'usine, la voix rocailleuse du vieux Giuseppe Retonti dans son crâne. « T'es pas fait pour ça, petit. Tu ne le sais pas encore, mais t'es pas fait pour ça. » Voilà, on voulait vous dire, on aime bien ce que vous faites. Ça nous fait drôlement du bien. Ça va bientôt faire un an que Josette et moi, on vient vous écouter. Tous les lundis et jeudi matin. Lorsque le RER s'arrêta en gare et que les gens quittèrent leur wagon, un observateur extérieur aurait pu sans peine remarquer à quel point les auditeurs de Guilin détonnaient d'avec le reste des usagers. Leur visage n'affichait pas ce masque d'impassibilité qu'abordaient les autres voyageurs. Tous présentaient un petit air satisfait de nourrissons repus.
Every time you remember, with every word, every number, you will enter a still deeper realm. Open, open, relax, relax, receptive, receptive. I will now count from 1 to 10. On the count of 10, you will be in the world.
Il suffirait d'une seule faïence de plus ou de moins pour habiller ce nombre antipathique d'un début de rondeur avenante. J'ai remisé la calculette dans son étui en soupirant. 14 717. Il va me falloir cette fois encore me contenter de ce nombre disgracieux pour les 12 mois à venir.
Is slowly beginning to sink. Seven. You go deeper and deeper. You go deeper and deeper. You go deeper and deeper. And deeper.
On every day, on every breath you take, you go deeper. Nine, you are floating. On the mental count of ten, you will believe in Europe. 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 You will believe in Europe.
Son RER, les deux pieds posés sur la ligne blanche qui délimitait la zone à ne pas franchir au risque de tomber sur la voie. Cette ligne insignifiante, tracée sur le béton, possédait l'étrange faculté de l'apaiser. Oui, il aurait suffi de renoncer tout simplement, de retrouver son lit et de se lever dans l'empreinte encore tiède que son corps avait laissée pendant la nuit.
Répondez. Allô, allô, ici la Terre, fusée lunaire, répondez.
Ici fusée lunaire. Allô, 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 c'est Tintin qui vous parle. Je viens de reprendre connaissance.
Graphite 94.9. Vous pouvez reprendre connaissance. La ligne claire se termine. Merci à Gisèle, Christian et Mitchum pour la belle inspiration. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine sonore. Même lieu, même heure. Et d'ici là, restez à l'écoute. Il se passe bien des choses de ce côté de la radio. La ligne claire.